Ici et ailleurs.
Here and elsewhere.
Here un underwo.
Aquí y en otros lugares.
Qui e altrove.
Here and elders.
Ovde и другде.
Здесь и в других местах.
Ту и где, инде.
Кото хокано башо.
Ici et ailleurs.
Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Ici et ailleurs sur Radio Camille. Nous allons aujourd'hui parler du voyage en Lituanie que nous avons fait avec nos professeurs. Nous sommes partis une semaine en mars. Chacun a dormi chez son correspondant, qui est venu ici en septembre dans le cadre de l'échange. Nous avons assisté à quelques cours dans le lycée international de Vilnius. Bonjour Emma.
Bonjour.
Peux-tu nous parler un peu de ta vie au lycée? Quel était ton programme?
Alors du coup, je vais vous raconter mon expérience un peu dépaysante, mais surtout passionnante, dans ce lycée international de Vilnius en Lituanie. Alors à savoir que dès les premiers jours, j'ai vite compris que c'était très différent de ce qu'on connaît en France. On a passé plusieurs matinées sur place, en immersion dans des cours très variés. Alors le premier cours auquel j'ai assisté, c'était un cours d'allemand. Alors pour être honnête, déjà que je ne parle pas lituanien, alors l'allemand c'était encore plus compliqué. Je me demandais vraiment ce que je faisais là, mais finalement c'était assez intéressant d'observer la manière dont les professeurs interagissaient avec les élèves. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point les professeurs sont proches de leurs élèves. Dans certains cours, les classes sont composées de 6 ou 7 élèves à peine. Du coup, l'enseignement est vraiment personnalisé. La professeure d'allemand, par exemple, elle était vraiment très attentive et à l'écoute. Même si, je comprenais pas du tout ce qu'elle disait à ses élèves, mais je voyais bien qu'il y avait un réel lien humain entre elle et ses élèves. À savoir que les élèves, du coup, travaillaient surtout sur ordinateur. Bon, certains, visiblement, étaient en train de jouer. Mais dans l'ensemble, ils restaient quand même très impliqués dans le cours. Un peu plus tard, on a assisté à un cours du BI, donc du bac international. Là-bas, tous les cours sont en anglais. Celui auquel j'ai assisté ressemblait à un cours d'SVT, mais avec un fort accent sur des enjeux environnementaux. Ce jour-là, on a écouté des exposés faits par des élèves, et franchement, c'était impressionnant. Leur anglais, il était vraiment excellent, presque parfait, et pourtant, ils avaient notre âge. Là encore, la prof était vraiment très investie, très proche des élèves, et comme le cours était en anglais cette fois, j'ai pu le suivre sans problème. Le lendemain, on a eu un cours un peu plus spécial avec un prof de maths qui nous a donné un cours rien qu'à nous, les Français. Il était vraiment drôle, il nous a même avoué en riant qu'il avait préparé son diaporama la veille ainsi que son cours grâce à ChatGPT. Et puis, il y a eu ce cours d'anglais, franchement, c'était un des plus intéressants. Dès le début, les élèves doivent échanger entre eux pendant 10 minutes en anglais tous les matins. Et ce jour-là, du coup, on a participé à cet échange. J'ai pu discuter avec plusieurs élèves très avenants, curieux et surtout très ouverts à notre présence. Ensuite, on a parlé du rapport entre la technologie et notre société, mais sous un angle presque philosophique, c'était vraiment passionnant.
Et concernant le lycée en lui-même, y a-t-il des différences avec les lycées français? Et si oui, lesquelles t'ont le plus marqué?
Alors, concernant le lycée en lui-même, il y a plusieurs différences qui m'ont surprise. Par exemple, les élèves ont un vestiaire où ils laissent leurs affaires sans cadenas, sans casier, etc. Parce que là-bas, vraiment, personne ne vole. Et dans le hall d'entrée, il y a 2 tables de ping-pong, on y a joué pendant plusieurs pauses. Juste à côté du lycée, il y a un centre commercial où beaucoup d'élèves passent du temps après les cours. Et pour la cantine, j'y ai mangé une seule fois, mais c'était vraiment délicieux. Par contre, les élèves, ils doivent payer leur repas tous les jours. Il n'y a pas d'abonnement à l'année comme chez nous. Et même si c'est un peu cher, c'était vraiment de la qualité. Ils ont aussi un grand gymnase à l'extérieur du lycée et un terrain de volley. Beaucoup d'élèves y jouent pendant leur temps libre parce que c'est l'un des sports les plus pratiqués là-bas, dans ce pays. Côté ambiance, les élèves sont plutôt studieux, il faut dire que c'est un lycée assez élitiste. En général, ils étaient plutôt sympas, même si certains nous regardaient un peu bizarrement, on était un peu des Français après tout. Mais en parlant avec ma correspondante, j'ai compris que la mentalité dans le pays était un peu différente. La société est parfois peu confrontée à la diversité, ce qui crée chez certains jeunes une forme de fermeture d'esprit, ou du moins des jugements un peu rapides. Mais malgré ça, j'ai vraiment adoré cette expérience. Les cours étaient vraiment très enrichissants sur le plan scolaire, mais aussi culturel et personnel. Et surtout, être plongé tous les jours dans un environnement anglophone m'a vraiment aidé à progresser.
Merci beaucoup Emma pour ces précisions. En plus d'être plongé dans l'ambiance du lycée, nous avons aussi été baignés dans la culture culinaire du pays grâce à nos familles d'accueil. Bonjour Leonardo.
Bonjour.
Peux-tu nous en dire plus sur ces spécialités culinaires?
Ah là 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 là. La cuisine lituanaise, c'est du sérieux. Les Lituaniens que j'ai croisés mangent en général 3 à 4 repas par jour. En fait, tout dépend si le petit déjeuner est copieux ou non. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne crève pas de faim en Lituanie. Ils mangent tout le temps, 3 repas complets, et parfois jusqu'à 4. Donc il y a un vrai petit déjeuner, un déjeuner, une sorte de goûter et un dîner. Tout dépend comment tu as commencé la journée. Si tu as eu un super petit déj, peut-être que tu sauteras le goûter. Par contre, certains lèvent le pied sur le petit déjeuner et ils prennent leur lunch super tard. J'ai même vu des Lituaniens manger à 16h comme c'était l'heure du dîner. Bon, assez parlé d'horaire. Passons aux vraies stars du repas, les mets. Alors imaginez une journée d'été, il fait à peu près 25 degrés à l'ombre et on vous dépose sur la table un bol d'un rose violet plutôt électrique. Froncez un peu le nez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est le chaltibarchai, la fameuse soupe froide lituanienne. Donc il y a de la betterave, du yaourt, du concombre, un peu de ciboulette. Bam! Violet fluo qui pète l'œil. Surprenant, mais ultra rafraîchissant. Idéal pour faire baisser un peu la température. Donc maintenant, passons à un plat un peu plus chaud. Donc on enchaîne avec le balan del yai. Alors je sais, le nom est long et un peu compliqué à prononcer. On dirait presque le titre d'un nouveau jeu. Balan del yai. Bon, un peu bizarre. Donc imaginez la scène. En gros, ce sont des feuilles de chou farcies à la viande hachée, un peu comme des petits paquets surprises réconfortants. On prend du chou tendre, bien cuit à la vapeur ou à l'étouffée. On le garnit d'un hachis parfumé et on roule tout ça et on fait mijoter doucement. Au final, vous avez un plat qui sent bon l'amour, un peu le repas familial bien rassasiant, qui tient au corps, surtout quand il fait encore frisquer dehors. Alors je vous rassure, on n'a pas encore fait le tour, le clou du spectacle salé, c'est le kepelinyai. Alors là, accrochez-vous, c'est du lourd. Alors littéralement, parce que kepelinyai, ça vient de zeppelin, parce que la forme rappelle ces gros dirigeables. Sauf qu'au lieu d'un ballon rempli d'air, c'est un ballon rempli de purée de pommes de terre et de viande. Alors imaginez une patate géante, on fait une énorme boule de purée, on coupe un trou, on y met de la farce, et on referme le tout et un gros boudin ovale. On fait bouillir ça dans l'eau jusqu'à que ça soit bien cuit, le résultat est gargantuesque, on sert généralement ces bombes avec une sauce au fromage, blanc légèrement acidulé, franchement c'est trop bon.
Et donc tout ça donne déjà l'eau à la bouche, mais comment ça se passe au niveau des desserts?
Alors les desserts, on va passer donc au sucré, parce que en Lituanie le dessert c'est sacré. Prenez par exemple le šakotis, c'est un gâteau à la broche, c'est un peu comme un arbre de Noël en version sucrée. On prépare une pâte bien riche, beurre, œufs, crème fraîche, sucre, tout un programme, et on verse ça petit à petit sur une broche qui tourne au-dessus d'un feu. Peu à peu ça crée des couches dorées pleines de petites branches. C'est absolument fou visuellement, le résultat est impressionnant, un gâteau doré tout croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, rien que d'y penser, on en salive. On continue dans le sucré avec les tiginis, littéralement le paresseux. Alors le nom dit tout, c'est un dessert enfantin à faire, pas besoin d'allumer le four. On prend des biscuits secs, on émiette grossièrement, on les mélange avec du lait concentré sucré, parfois un peu de cacao ou de café pour la couleur. On tasse le tout, on laisse prendre au frais, et puis on coupe en carré. C'est ultra fondant et super gourmand. On dirait du fudge, c'est tellement simple et tellement bon que les gamins en raffolent. Il y a aussi un truc qu'on appelle les blinai, ce sont des grosses crêpes épaisses, presque des galettes, souvent préparées en famille. Alors ça n'a rien à voir avec nos crêpes bretonnes, non, là c'est vraiment des crêpes géantes, on dirait des pancakes XXL, elles sont moelleuses et généreuses en garniture. Parfois on les fourre d'une compotée de pommes caramélisées, parfois de la confiture, parfois même de la viande hachée. Par exemple, moi, j'en mange avec de la confiture de pommes. C'est vraiment excellent, surtout quand c'est fait maison. Donc, ces blinai, on les mange plutôt au petit déjeuner tardif ou au goûter, et c'est juste un régal. Et n'oublions pas les surelis. Donc, c'est un petit dessert lacté très populaire. Parfois, on dit que c'est l'équivalent d'un fromage frais sucré en bar. Je vous laisse imaginer, ça se décline en plein de parfums. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour les gourmands. Pour finir, j'aimerais bien parler de notre visite à Trakai, parce qu'on a mangé un plat. C'était les kibinai, donc ce sont des petits chaussons fourrés de viande, traditionnellement de l'agneau. C'est une recette karaïte, un peu comme des mini calzones. Dedans, la viande est juteuse et bien parfumée, un peu d'herbe, parfois un peu d'oignon, un peu de poivre. La pâte est dorée et croustillante à l'extérieur. À Trakai, on en dévore par poignée, c'est juste délicieux.
Merci beaucoup, Leonardo, ça donne vraiment l'eau à la bouche. J'ai très faim maintenant. La Lituanie est donc un pays avec une culture importante, culinaire, mais aussi historique. Tu l'as mentionné, la ville de Trakai. Nous avons eu l'occasion de la visiter le mercredi. Bonjour Camille.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ville historique?
Bien sûr. Donc Trakai est une ville qui est située environ à 25 km à l'ouest de Vilnius. It is famous for its medieval castle built in one of the islands in Lake Galve. I don't know how to pronounce that. One of the many lakes surrounding the village. Au Moyen-Âge, Trakai était la capitale de Lituanie avant de devenir un village historique. Donc le château de Trakai a été construit au XIVe siècle par le grand-duc Vytautas. Le but était alors d'héberger les grands-ducs de Lituanie. Il a été restauré au XXe siècle et est aujourd'hui devenu un musée. C'est une ville multiculturelle, donc Trakai a été habitée par les Karaïtes, qui sont une minorité turcophone de religion juive. Leur héritage est très visible encore aujourd'hui, à travers la cuisine notamment. Donc nous sommes allés à un restaurant où nous avons goûté les plats karaïtes, les kibinés, comme l'a dit Leonardo. C'était très bon. Honnêtement, si vous voulez en refaire, faites-le, c'est super. Il y a également l'affluence karaïte qui est visible avec leurs maisons colorées. Elles étaient composées donc de trois fenêtres. La première était pour rendre hommage à Dieu. La deuxième pour Vytautas, donc le fondateur de la ville. Et une dernière pour eux-mêmes. Donc plus une maison avait de fenêtres, plus leur propriétaire était riche. Donc cette ville est composée entourée d'énormément de lacs, et se promener l'été, c'est super, surtout si vous avez des amis avec qui y aller.
Merci Camille. Tout comme Trakai, la ville de Kaunas, que nous avons pu visiter le mardi, est-elle aussi une ville importante dans l'histoire de la Lituanie? Bonjour Aloïs.
Bonjour Thibaut.
Peux-tu nous expliquer pourquoi cette ville est importante dans le passé de la Lituanie, et comment s'est passée la visite de cette ville?
Kaunas est importante dans l'histoire de la Lituanie parce qu'elle a été la capitale temporaire du pays entre 1919 et 1940, à une époque où Vilnius était occupé par la Pologne. C'est à ce moment-là qu'elle s'est développée comme centre politique, culturel et éducatif. Nous avons passé la journée à explorer ses rues pavées grâce à un jeu de chasse au trésor préparé par nos correspondants, ce qui s'est révélé assez fatigant en raison des reliefs de la ville. Nous avons également vu son château médiéval, que nous aurions aimé visiter, et découvert son architecture art déco, très présente dans la ville. Kaunas n'est pas seulement une ville historique, elle est aussi animée grâce à sa population étudiante et son équipe de basket emblématique, la Žalgiris Kaunas. Pendant notre visite, nous avons eu l'occasion d'assister à une fanfare, ce qui a apporté une ambiance festive et vivante à notre passage. La ville s'est révélée être très vivante et accueillante, nous avons même eu l'occasion de discuter avec des lycéens de Kaunas, même si nous avons pu ressentir des regards hostiles de la part de certains groupes de locaux.
Merci à Louis. Après ces visites de Trakai et Kaunas, nous avons pu le dernier jour à Vilnius, le vendredi donc, visiter deux lieux de mémoire très importants qui nous bouleversent fortement. Le musée du génocide, puis le musée du KGB. Ces lieux ne se contentent pas de raconter l'histoire, ils nous la font vivre, ressentir et parfois même supporter difficilement. Bonjour Floraëlle.
Bonjour.
Tu vas nous raconter la visite de ces musées, lequel as-tu préféré?
It's the KGB Museum located in the former headquarters of the Soviet Secret Services. C'est sûrement l'endroit le plus glaçant que nous avons visité. En descendant dans les sous-sols, le choc était extrêmement fort. Nous découvrons les anciennes cellules qui sont étroites, sombres, humides, ainsi que le processus d'arrivée des prisonniers. Il y a des salles d'isolement, une cellule où on faisait passer de l'eau glacée pour briser mentalement les prisonniers, les salles de torture et surtout la chambre d'exécution. Le sol y porte encore les traces du passé et les murs sont criblés de balles. Nous restons sans voix en écoutant le guide. Celui nous fait ressentir la violence, la peur, l'oppression. Mais il nous parle aussi du courage, celui de ceux qui ont résisté, même face à l'horreur.
Et peux-tu nous raconter le deuxième musée ?
Nous avons pu aussi visiter le musée du génocide, qui revient sur une période particulièrement sombre de l'histoire lituanienne, marquée par l'occupation nazie puis soviétique. Ce musée nous confronte d'abord à l'extermination presque totale de la population juive lituanienne pendant la Shoah. Des objets, des centaines de photographies, des lettres racontent les vies des familles détruites. Puis viennent les années soviétiques avec les déportations massives en Sibérie, la surveillance constante, l'écrasement de toute opposition. Ce qui marque, ce sont les visages, les noms, les témoignages intimes qui sont si nombreux. Tout ici nous rappelle que derrière les grandes dates de l'histoire, il y a des vies humaines brisées. C'est une mémoire silencieuse mais puissante qu'on ne peut pas ignorer.
Et en général, comment ces visites t'ont-elles touché ?
Après ces visites, j'ai été profondément touchée. Ces deux musées sont là pour transmettre, pour faire mémoire, pour éveiller les consciences. En les visitant, je me suis rappelée à quel point la liberté et la dignité humaine sont précieuses et surtout fragiles. Et surtout comment la Lituanie a été impactée parce qu'on n'était pas forcément au courant. Cela m'a plu d'en apprendre plus sur le passé chargé d'histoire lituanien.
Merci Florel. Voilà, c'est la fin de cette émission d'ici et ailleurs. J'espère que ce court résumé de notre voyage en Lituanie vous a donné à vous aussi l'envie de découvrir la culture et les paysages de ce pays. Merci d'avoir écouté Radio Kamina.
Ici et ailleurs.
Here and elsewhere.
Here un underfo.
Aquí y en otros lugares.
Qui e altrove.
Here and elders.
Ovde y drugde.
Здесь и в других местах.
Tu и где, инде.
Кото, ока, ну вашу.